Alors prions nos Bibles et regardons ensemble dans la première épître de Paul à Timothée. Et je vais faire une petite révision sur les deux premiers versets que nous avons déjà étudiés. Et je voudrais aussi qu'au fur et à mesure, si le Seigneur vous donne une pensée ou bien une clarification sur un verset, une partie de verset, que vous ayez la liberté de partager cela au fur et à mesure. Je ne voudrais pas que ça soit seulement moi, puisque c'est une étude biblique, et je sais que le Seigneur œuvre dans le cœur de chacun de ses enfants. Je ne suis pas comme certains supposent un prêtre qui seul a la parole, mais si nous sommes en Christ et que Christ nous a rachetés, cela veut dire que chacun de nous, nous avons accès auprès du trône de la grâce et son esprit agit en nous à travers sa parole. Et même la Bible nous dit que l'esprit des prophètes soit soumis les uns aux autres. Ce n'est pas que nous sommes des prophètes comme dans l'époque, mais prophétiser aujourd'hui, c'est de prendre la parole de Dieu et l'annoncer. Et chacun de nous, dans nos différents lieux, Dieu nous a placés où nous sommes afin d'être un témoin de Christ et de cet évangile. Et nous savons que c'est un combat, puisque l'évangile de la Bible, l'évangile de Dieu, la doctrine de Christ n'est pas populaire. Les hommes sont nés dans ce monde opposé à cet évangile. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que nous avons aujourd'hui une certaine connaissance de cet évangile par son esprit. Autrement, nous serions comme le reste du monde religieux. Mais je voudrais lire à partir du verset 1 encore, jusqu'au verset 4. Cela servira pour comme notre texte aujourd'hui. Alors, je lis 1 Timothée 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. J'aime beaucoup les termes bibliques et même lorsque nous parlons des doctrines de la Bible. En fait, vous savez que le mot doctrine en ce qui concerne la doctrine de Christ n'est jamais au pluriel dans la Bible. C'est toujours au singulier. C'est la doctrine de Christ. Et c'est la même chose concernant le mot foi. Beaucoup utilisent ce mot. Ils supposent qu'il y a plusieurs sortes de foi. Mais vous savez la manière que Paul a écrite ici dans le verset 4. Il ne parle pas de foi au pluriel. Il parle de beaucoup des fables, ça c'est au pluriel, et des généalogies sans fin qui produisent des discussions. Tu vois que dans le monde, ils aiment la discussion, les discussions. Mais vous voyez ce qu'il dit, plutôt qu'elle n'avance, notez, c'est au singulier, l'œuvre de Dieu dans, et notez, la foi. La foi. C'est une autre manière de décrire l'Évangile. Quand les hommes nous demandent, ben, ça c'est quelle doctrine, ça c'est quel message, nous pouvons dire que c'est le message de l'œuvre de Dieu dans la foi. Il n'y a pas plusieurs fois. Si la foi que nous embrassons n'est pas cette foi qui est donnée par la grâce de Dieu en Jésus-Christ et révélée par le Saint-Esprit, donc ce n'est pas la foi. Et je sais que même disant cela, ça produit vraiment de la haine, la colère de la part de ceux qui ne sont pas de cette foi. Parce qu'ils sont en fait des enfants illégitimes. Il y a beaucoup d'enfants illégitimes dans la foi. Ils professent de leur bouche d'être à Christ. Mais quand tu écoutes, quand tu entends la manière qu'ils parlent de Christ, tu aperçois immédiatement qu'ils ne sont pas vraiment de sa famille. Et c'est pourquoi Paul, en écrivant à Timothée, dans le verset 2, a débuté en s'adressant à lui comme son enfant légitime, mais notez bien aussi, c'est toujours au singulier, en la foi. Il n'y a qu'une seule foi. Quand vous regardez, par exemple, dans le livre de Jude, si vous voyez là avec moi, juste avant le livre de l'Apocalypse, quand l'apôtre Jude voulait écrire pour encourager ses auditeurs, les lecteurs, il disait, il a écrit dans le verset 3, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de, notez bien, notre salut commun. » C'est pourquoi le frère Amédée, Mamadou, Aurélien, nous sommes en train de nous réunir ici, séparer d'autres à cause de ce salut commun. Nous avons ça en commun. Et Jude continue, « Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, notez, à combattre. » Donc, c'est un combat. Pourquoi? Parce que les hommes sont perdus. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont religieux, bien sûr. Et même au nom de Christ, il y a beaucoup de religions aujourd'hui. Mais si ce n'est pas fondé sur cette foi que la Bible révèle, la foi qui est le témoignage de Dieu, la foi qui est la doctrine de Christ, donc ce n'est pas la foi. C'est là, alors, il y a un combat. Nous avons à combattre, c'est écrit, pour la foi, singulier, qui a été transmise au sein, notez, une fois pour toutes. Alors, quand on pense à cela, parce que depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, il faut dire qu'il y a beaucoup de ceux qui sont passés, à qui Dieu s'est révélé. Il a révélé en eux par son esprit le véritable Christ. Mais ici, la manière que c'est écrit, ça parle d'une transmission au sein une fois pour toutes. Alors, on doit se demander à quel moment, alors, est-ce que cette foi a été livrée, a été transmise au sein. Et là, le mot « saint », ça parle de ceux qui ont été justifiés devant Dieu. Ceux que Dieu lui-même a rendus aussi saints que lui-même est saint. Mais c'est ça qui fait la différence dans les religions. Parce que même aujourd'hui, tout, quand on dit « œuvre et mission », ils ont déjà mis dans le titre leur ambition, leur mission, c'est les œuvres. Mais aucune œuvre de l'homme ne peut justifier l'homme devant Dieu. Alors, ici, quand c'est écrit « saint », C'est un mot qui signifie aussi saint que Dieu lui-même. Et ça a été transmis une fois pour toutes. Je vous dis que cela ne peut être qu'à la croix. Que c'est à la croix, dans un seul lieu, par un seul sacrifice, et par le Sauveur lui-même, un seul Sauveur, que Dieu a une fois pour toutes justifié, sanctifié, racheté un peuple. Et c'est par là qu'ils sont devenus saints devant lui. Ce n'est pas, je crois bien au décret de Dieu, je crois bien que depuis l'éternité, Dieu lui-même a élu, il a prédestiné ceux qui doivent être sauvés. Mais ce n'est pas depuis l'éternité qu'ils ont été rendus saints. Et il y a beaucoup aujourd'hui qui disent non, c'est pas la foi. Mais là, ils parlent d'une foi personnelle. Cela veut dire au moment où je crois, alors ensuite Dieu me déclare saint. C'est ce que la plupart dans la religion aujourd'hui croient. Mais je peux vous dire que ce n'est pas par cet moyen que cette foi a été transmise, ou bien que des pécheurs sont devenus saints. C'est à la croix, lorsque Christ est mort, tellement était la satisfaction de la part du Père à cause de l'œuvre de Christ, son Fils, que ensuite il a pu déclarer ce que Christ représente, ce pour qui Christ est mort, il les déclare saints. Et c'est ça, cette foi. Tu vois, quand les gens lisent le mot foi dans la Bible, ils pensent toujours à une foi personnelle. Mais ici, revenons encore dans 1 Timothée chapitre 1, quand Paul, écrivant à Timothée, parle de la foi, il parle de l'Évangile. Il parle de cette révélation de la foi qui concerne Christ et sa mort, et tout ce qu'il a accompli dans sa mort. C'est ça la foi. Alors quand quelqu'un me dit, j'ai la foi, je réponds, décris pour moi cette foi alors. Parce que si ce n'est pas axé sur Christ seul, la foi a toujours comme objet le Seigneur Jésus-Christ. Et son œuvre, ce n'est pas œuvre et mission dans le sens de pluriel, mais une seule œuvre qui compte devant Dieu. Et c'est cette justice que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à l'égard de ses élus, à l'égard de ceux que le Père lui a donné. C'est pourquoi il est venu. Il y a un passage très clair dans l'Épître aux Hébreux et le chapitre 10 à cet égard. Et c'est pourquoi Paul écrit à Timothée. Tu sais, 1 Timothée, la première épître de Paul à Timothée, a été écrite vers la fin du ministère de l'apôtre Paul. Et il est en train d'écrire à Timothée en tant que son fils légitime dans cette foi. Cela veut dire uni à lui, quoique Paul était âgé, plus âgé que Timothée, c'est pourquoi il appelle son fils, mais dans la foi. Cela veut dire, en Christ, il n'y a pas de distinction. Et le titre qui se donne en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, c'est un titre de soumission, d'humiliation. Il n'est pas en train de se mettre au-dessus de Timothée, dans le sens de lui donner des commandes. Non. Mais il le considère comme un frère, un fils, un dans cet évangile. Et c'est le même évangile que nous voyons à travers la Bible. Alors, c'est dans ce sens-là aussi, la même foi transmise une fois pour toutes. Quand Adam a chuté, et Dieu a tué des animaux qui étaient innocents, versé leur sang, Adam a vu à ce moment-là en forme, en type, il a vu la signification de ses péchés et que ça demandait un substitut. C'était cette même foi à travers l'Ancien Testament. Le salut n'était pas dans le sang versé des animaux, mais en ce que ce sang versé représentait. C'était prophétique du sang du véritable agneau de Dieu que Dieu le Père allait envoyer dans le monde, et maintenant nous savons qui l'a envoyé. Alors, à travers les époques, c'est cette même foi, une seule foi, qui est la foi des saints. Cela veut dire de ceux que Dieu lui-même a justifiés. Mais ici, dans l'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 10, et dans le verset 10, ça c'est un verset clé au sujet de cette foi. C'est en vertu de cette volonté, quand on lit dans le contexte, il parle de la volonté souveraine de Dieu, de la manière qu'il sauve des pécheurs, et il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Combien aujourd'hui pensent à la sanctification comme étant une œuvre de l'homme? On doit se sanctifier, on doit se mettre à part, on doit se rendre saint. Et ils ont toutes sortes de méthodes et pratiques qu'ils suivent à cette fin. Mais ils n'ont pas lu la Bible, parce que dans Hébreux 10 et le verset 10, c'est écrit au passé. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, déjà. Là encore, où est-ce que les enfants de Dieu ont été sanctifiés devant Dieu? Le mot sanctifié veut dire mis à part à la sainteté. Mais le verset 10 le dit, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Cela veut dire que, commençant avec Adam jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin du temps, tous ceux que Dieu lui-même a élus et il a prédestinés au salut, ils ont été sanctifiés déjà par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est là qu'on était justifiés. Ce n'est pas quand l'Esprit a ouvert nos yeux que nous avons été alors justifiés ou bien sanctifiés devant Dieu. Non, c'est par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. En ouvrant nos yeux, il nous a fait savoir que l'œuvre était déjà accomplie entre le Fils et le Père. Et c'est là tout notre salut. Ce n'est pas en nous, c'est en lui, c'est dans l'œuvre de Christ seul. Alors ça, c'est un verset clé. Mais regardez aussi le verset 14. « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Ce que les hommes dans la religion cherchent, ils cherchent la perfection. Donc, ils œuvrent, imaginant que c'est par ces œuvres qu'ils seront perfectionnés devant Dieu. Mais c'est écrit ici, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Tu sais que c'est ça la révélation de la foi au cœur. Ça, c'est la révélation de Christ, la doctrine de Christ, qui est révélé au cœur de ceux pour qui Christ est mort. Alors, quand quelqu'un, on le rencontre, et il dit, mais moi aussi, je suis chrétien. Il faut qu'on leur demande alors, mais décris-moi ta foi. Et si cette foi n'est pas fondée, axée uniquement sur Christ et son œuvre seule, alors, ce n'est pas la foi. Alors, je ne sais pas si c'est de cette manière que vous voyez ces versets. Je vais m'arrêter là un peu pour pour vous laisser participer. Amédée, comment est-ce que tu vois ces choses?
Oui, moi, effectivement, je n'ai pas changé dans ma façon de voir l'Évangile. Comme tu l'as si bien dit, c'est par le sacrifice de Christ seul. Voilà. C'est par ça que nous sommes justifiés, sanctifiés, tout ça. Et on n'a rien ajouté à ce sacrifice, pas même nos bonnes œuvres. Et même si il nous arrive de pratiquer les bonnes œuvres, c'est parce que nous sommes en Christ que nous pratiquons ces bonnes œuvres-là. Mais ce n'est pas les bonnes œuvres-là qui sont l'objet de notre salut. Alors donc nous, on doit, en tant qu'enfant de Dieu, reconnaître que si Christ n'était pas mort à la croix, nous ne serions jamais sauvés d'abord. Deuxièmement, nous n'aurons jamais adressé la prière à Dieu. Mais c'est en vertu de la mort de Christ qu'on se considère aujourd'hui comme enfant de Dieu. Voilà. Moi, je pense que je suis dans la lignée de ce verset, ce que Paul a dit à Timothée, et que c'est l'évangile de la grâce par la foi en Jésus-Christ. Voilà.
Très bien. Oui. Non, et effectivement, c'est ce que, quand je demande à quelqu'un d'écrire pour moi ta foi, c'est ce que je voudrais entendre. Parce que c'est là, effectivement, ce que nous avons en commun, ce salut en commun en Jésus-Christ, et toute la gloire revient à Christ seul. Et le frère Koulibaly a quelque chose à ajouter aussi?
Sont aujourd'hui zélés par les miracles, les guérisons, que les passages vraiment les plus profonds, les plus subtils, ne sont pas souvent considérés par les gens. C'est pour cela, souvent, dans vos messages, là, ces petits passages, quand vous les développez, ça me donne encore plus de croyance. Parce que moi, j'ai failli être au bord de ce mouvement. Quand j'étais parti au Mali, j'ai les pères des passion là-bas, qu'il faut les délivrances. Et les gens se lèvent et quittent la Côte d'Ivoire un peu partout. Ils vont là-bas. Et j'ai eu à fréquenter cette église. Et j'ai commencé même à prier. Et Dieu a fait que des fois, il y avait des guérisons avec moi. Mais ça l'a mal obéi. Alors, et voilà. Souvent que c'est ça. Beaucoup pensent réellement que le salut, c'est leur effort, c'est les autres. Et en réalité, c'est le Seigneur même qui m'a aidé, parce que quand j'avais mes anciens documents, alors je n'ai pas été porté. Mais par la suite, ils m'ont tellement aimé qu'ils ont voulu même que je sois là pour travailler parmi mes frères musulmans. Parce qu'on passait à la prison, on passait prêcher, et l'évangile vraiment n'était pas le même. Alors, mais seulement pour le problème de prédestination, beaucoup pensent que nous offusquons la voix de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas beaucoup sur le passage, la prédestination. Or, quand nous voyons, le monde même est sur ça. Même la vie de tout et chacun de nous, des fois, quand tu vois que Dieu a prévu, a prédestiné. Bon, souvent, c'est là, les gens ne comprennent pas ça beaucoup. Mais c'est ça, souvent, qui est difficile. Alors, comme il y a le frère Aurélien qui est là, alors je limite là d'abord.
Merci, c'est bien, c'est bien. Et Aurélien, quelque chose à ajouter?
Oui, je voudrais attirer votre attention sur deux points fondamentaux que vous avez soulignés, que je partage personnellement dans le texte. Vous avez souligné que lorsque des gens commencent par attribuer l'évangile à d'autres doctrines qui est pluriel, ça veut dire qu'ils sont en train déjà de passer à côté. Il n'y a qu'une seule doctrine, la doctrine de Christ. Ensuite, il n'y a que la foi. Et l'œuvre de Dieu doit avancer dans la foi. Donc, le problème des gens aujourd'hui, c'est pas qu'ils confondent la foi, le sujet de la foi à la maison. Or, quand on parle de la foi, on parle essentiellement de son sujet. Et son sujet, c'est Jésus-Christ.
Oui.
Que Dieu prend pour le compte de certains pécheurs. Le pécheur qui a la révélation de Christ doit pouvoir s'identifier à Christ seul.
Oui.
Et c'est en cela que, par identification, on peut parler de la foi. Quand les hommes commencent à se voir différents de Dieu et de Christ et s'accrochent à une doctrine bonne ou mauvaise, à des croyances, ils sont obligés de parler de leur propre œuvre, de leur religion, de leur compétence et de ce qu'ils vont ajouter à Dieu. Mais si réellement ils s'identifiaient à Dieu, à la doctrine de Christ, à Christ lui-même, et si cela était l'objet de leur foi, ils ne vont pas trouver à ajouter pour mériter, mais se voir déjà mérité par invitation. C'est-à-dire, Dieu prend pour leur compte la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, comme vous l'avez si bien dit. Mais eux aussi, ils doivent reconnaître et se voir à travers cette seule personne et cette œuvre. Lorsqu'on commence par considérer sa personne, sa religion et des doctrines et des fois, de ce moment, on commence par privilégier des idées préconçues au détriment de la personne et l'œuvre de Christ que Dieu impute au compte du pécheur. Donc en réalité, les hommes, réellement, comme vous avez dit, ne parlent pas de la foi. Ils parlent de leur croyance variée et diversifiée. Ils parlent de leur personne qui mérite d'être considérée à côté de la personne de Christ. Et là, il montre clairement la différence entre eux, Dieu et Christ, qui est l'objet de toute la personne de Dieu. Donc en réalité, Paul a besoin de dire que s'il y a des doctrines qui sont multiples et variées, ça veut dire que ce n'est pas la doctrine de Christ. Et cette doctrine ne peut jamais faire avancer dans l'œuvre de la foi qui est unique, qui est Christ et qui est Dieu lui-même, et dont Christ est l'objet de toute son affection. Ouais, donc, quand les hommes commencent à s'accrocher à des miracles, à des doctrines, à leur personne, à leur œuvre, il est évident qu'ils continuent de se voir différents de Christ, et ça veut dire qu'ils n'ont pas renoncé à eux-mêmes. La foi, par définition, c'est le renoncement à soi pour une autre personne à travers laquelle on se voit entièrement, selon la promesse de Dieu et l'œuvre que Christ a accomplie pour réconcilier le pécheur avec Dieu par la grâce de Dieu. Donc, je voudrais que nous considérions réellement ces deux aspects que vous avez soulignés. Si on parle de la prédestination comme une doctrine qu'on doit accepter, qu'on est en train de passer un peu à côté. Parce que la doctrine de Christ, c'est Christ lui-même, sa personne et son œuvre. Ce n'est pas la vérité concernant Christ simplement, mais c'est Christ lui-même en qui Dieu nous a élus, par qui Dieu s'est réconcilié avec nous, dont la personne et l'œuvre lorsqu'on nous a été invités et à travers laquelle nous nous trouvons entièrement, au lieu de nous voir à part pour ajouter ou retrancher, et de pouvoir nous prévaloir à travers des doctrines, vous voyez, sans nous rendre compte que nous sommes en train de nous éloigner de l'essentiel. Or, l'essentiel ici, c'est réellement Dieu, c'est Christ, et c'est nous en Christ par la grâce de Dieu. Je tiens vraiment à souligner cet aspect-là, et l'apôtre tient ferme là-dessus, comme Jude l'a dit, et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a dit. Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes les fois où nous en aurons besoin par l'offrande du corps de Jésus-Christ.
Amen.
Notre propre offrande et notre propre corps ne nous sanctifiera jamais. Mais c'est ce que Dieu nous a donné par invitation et que nous croyons par identification, par le renoncement, qui sera la réalité qui nous unit réellement avec Dieu et sa puissance.
Amen.
Merci bien, j'espère que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire.
Oui. Bien sûr. Et c'est bien dit parce que vous allez trouver qu'il y a même à l'époque des gens qui tiennent à ce qu'ils appellent les doctrines de la grâce. Ils mettent ça au pluriel. Et ils peuvent bien définir l'élection. Ils peuvent définir ce qui est le péché. Ils peuvent définir l'œuvre de Christ à la croix, que c'est pour des élus. Ils sont bien doués dans l'explication des doctrines. Mais comme tu dis, c'est vide de Christ. L'accent n'est pas sur Christ, c'est sur la doctrine. Et tu as bien souligné l'erreur de nos jours. J'ai beaucoup de pasteurs et prédicateurs autour de moi ici aux États-Unis qui croient aux doctrines du Calvin. Et souvent, quand ils m'entendent prêcher, ils disent, mais ça, c'est le calvinisme. Non, ce n'est pas le calvinisme. Calvin n'était même pas encore né lorsque l'évangile a été transmis déjà une fois pour toutes. La foi, l'objet de la foi, c'est Christ et ce qu'il a accompli à la croix. C'est tout. Alors, quand j'écoute les prédications, je ne suis pas attiré simplement parce que quelqu'un parle de la souveraineté de Dieu ou de la prédestination ou des élus, mais qu'en est-il de Christ? Qu'est-ce qu'il dit de Christ? Parce que quelqu'un à qui cette foi est révélée, il va expliquer tous ses enseignements à travers la personne et l'œuvre de Christ, et non pas l'envers, tu vois. Alors, c'est bien. Tu as bien retenu, vous avez retenu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Oui, Amélie. Oui, oui.
Alors, pasteur, je sais pas si je voulais ajouter quelque chose. Quand le frère Koulibaly, il parlait tout de suite là, dans ses propos, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il faudrait que nous tous en fassions aussi attention, mais particulièrement Koulibaly quand il avait dit que même quand il partait au Mali et il avait fréquenté d'autres églises et puis il arrivait aussi à faire des miracles, tout ça, tout et tout. Alors, je pense que ça, il faut que maintenant, par la grâce de Dieu, tous, quand le Seigneur nous remet sur le droit chemin, parce que nous, souvent, les hommes, dans notre nature pécheresse, on pense qu'il y a un autre évangile à part l'évangile de la grâce. Et le pasteur Ken, je le reviens là-dessus encore, parce que quand tu as fini de prêcher l'évangile, que tu rentres aux États-Unis, et à Gagnoa, précisément, moi, je vais parler de moi particulièrement, pour ne pas juger les autres, j'ai pensé, peut-être que peut-être à cette époque, j'étais encore jeune, mais j'ai pensé qu'il y avait encore d'autres choses, étant donné que, comme Koulibaly a dit, moi, je venais dans un lieu de culte qu'on appelle le christianisme céleste. Et là-bas, on faisait soi-disant les visions. On prédit l'avenir. Moi, j'appelle ça aujourd'hui le fétichisme.
Ouais.
Et on pensait que c'est ça qui pouvait sauver. Et qu'il fallait que, quand on est enfant de Dieu, Dieu doit nous parler encore, soit peut-être audiblement, ou bien il y a des visions, quand on dort, il doit nous dire des choses tout le temps. Et ça nous amène à l'erreur. Et moi, ça m'a amené à l'erreur et ça m'a éloigné de l'évangile pendant de bonnes années. Vous voyez? Alors, donc, quand Koulibaly dit que lui aussi, il a fait au Mali, les gens faisaient. Donc, il faut que, par la grâce de Dieu aujourd'hui, il faut qu'on s'éloigne de ces choses, qu'on fasse attention. Il n'y a pas d'autre révélation que le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de vision, il n'y a pas que je vais imposer quelqu'un, il va se lever, il va se. Non. C'est ça qui est l'erreur. C'est dans cette erreur là que moi je suis tombé et pendant des dizaines d'années, je suis tombé pour vu que quand je suis venu maintenant en France, que Dieu maintenant, par sa grâce, m'a fait un retour à l'évangile.
Ouais.
Et que je n'ai pas envie d'abandonner. Donc, quand je dis ici en France, ce que il n'y a pas de révélation. Et autour de moi aussi en France, à Paris même déjà là c'est grave. C'est comme l'a dit Koulibaly là. C'est ça aussi qu'il y a en France ici, des délivrances, des choses, église de prospérité, voilà, ils font des choses, comme ça. Donc aujourd'hui, par l'expérience, le Seigneur, l'évangile qui nous a révélé, et que moi-même j'ai reçu, et à un moment donné, abandonner même l'évangile même, pour même aller consulter les diseurs des bonnes aventures, croyant qu'il y a quelque chose de qu'il y a un autre salut, alors que c'était sans issue. Or, le pasteur Ken nous le disait depuis longtemps qu'il n'y a pas de salut, il n'y a pas autre chose derrière. Nous, on pensait que c'était faux. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui et que Koulibaly, ce qu'il a vécu au Mali, qu'il abandonne. Si véritablement qu'il abandonne, que ce que nous sommes en train de faire sur Skype aujourd'hui, en prêchant l'évangile là, en faisant. En étant loin, mais en communiquant spirituellement à travers Skype, vraiment, moi je pense que c'est une véritable bénédiction. Ouais. Mais que d'insister qu'il ne faudrait pas qu'on pense qu'il y a autre chose, que Dieu doit nous donner des visions, comme moi je le faisais dans Christianité Céleste. Ouais. Christianité Céleste, on faisait des visions, on voyait, mais sans l'évangile, sans l'esprit. Après le départ de Pasteur Kel, Dieu nous a suscité un véritable prédicateur pour nous enseigner. Au lieu de rester là, allez, chacun a pris sa route, vous disant que le pasteur Ken n'est plus là, donc allez, on va aller regarder autre chose. On a vu dans les autres religions, tout et tout, on a vu qu'il n'y a rien, l'évangile. Oh, aujourd'hui, moi, par la grâce de Dieu, il y a fait retour à l'évangile. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Autour, il n'y a rien. Il y a un seul vrai évangile. Alors, donc, moi, c'est ça que je voulais partager, et que le frère Koulibaly, je l'encourage, parce qu'il a fait qu'essayer, il est dans un milieu musulman. Vraiment, il faut qu'il fasse attention à ces ruses-là, du diable, et à ces pièges que le diable met souvent sur nos routes. Voilà. Donc, moi, déjà, Aurélien, je suis toujours avec lui sur Skype, sur Facebook, on se voit, donc on voit les messages, mais pour ceux qui sont très loin, il faudrait qu'on fasse attention, parce qu'il n'y a pas... Moi, je pense qu'il n'y a pas un autre évangile, à part ce que nous voyons, et à part ce que Paul est en train de prêcher. Et donc, vraiment, moi, je suis content d'être avec le frère de prêcher. Mmh. Et je voulais lever cet équivoque-là un peu, pour dire à Koulibaly qu'il n'était pas seul dans ce cas, et que moi aussi, je suis passé par là. Voilà. Merci.
Amen.
En réalité, allô?
Ouais.
Allô?
Oui,
allô, Koulibaly.
Allô?
Oui, allô. Oui.
Voilà, vraiment.
Oui, allô, on t'entend.
Hein. En réalité, voilà, d'accord. En réalité, vous saviez que si le diable vient, il vient avec ses pièges, parce qu'il est malin, il est très malin.
Mm-hmm.
Vraiment, quand moi, je suis parti au Mali d'abord, j'étais réellement très ravi parce que je voyais des pasteurs maliens qui faisaient des miracles. Même les musulmans étaient convertis. J'ai suivi les prières, les séances de prière là-bas, dans les églises où les musulmans, les LH là, sont les plus nombreux parce qu'ils s'y rendent, parce que le pasteur prie pour les malades.
Tout à fait.
Et moi, j'ai assisté à ça plusieurs fois. Alors, il fallait vraiment que je mette dans mon cœur ce que j'ai cru, en qui j'ai cru. Sinon, ce n'était pas vraiment facile.
Mm-hmm.
En réalité,
ouais.
On est en train d'arriver avec la course effrénée et miracle maintenant, le salut de l'âme est omis complètement. Et quand moi j'ai été vraiment au Mali, j'ai vu que les musulmans même m'abordaient et disaient « Ah, mais les chrétiens maintenant ils font des miracles, c'est que leur Dieu là... » Bon, moi j'ai trouvé, c'était difficile, j'étais confondu. Mais vraiment, il a fallu, Dieu, c'est pour cela que je prends ces cours-là, réellement avec avidité. Et j'enseignerai ça aussi, ces cours-là, ici, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Je reçois ces cours-là avec un grand intérêt. Sinon, réellement, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, même si tu parles même de prédestination, on dit que tu fais ça pour, tu dis ça pour barrer la route. Vous voyez? Alors, c'est pas facile de comprendre. Vraiment que
ouais.
Le Seigneur vous bénisse.
Ouais.
Je vous remercie, mon frère Amédée. Vraiment que Dieu vous bénisse,
ouais.
Alors que Dieu vous bénisse.
Ouais.
Dans la vie de chacun de nous, on rencontre réellement des épreuves difficiles. Vous savez que celui qui m'a enseigné cette doctrine-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Moi, je vous dis, un jeudi, on était prêt à se rendre au grand pasteur. Ce dernier-là est mort comme ça sur la chaise. Or, priait pour les malades. Et d'autres même disaient, priait pour les malades qui sont ressuscités. Ah, c'est là, vraiment, c'est là que j'ai su que, réellement, que nous devons savoir quelque chose. Dieu peut tout faire, mais est-ce qu'il peut tout faire? Souvent, si on ne considère pas ça, nous allons nous placer réellement à la table la plus meilleure. On ne sait pas ça. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.
Oui, et je voudrais faire le lien avec ce que vous venez de dire et ce que Paul dit à Timothée, parce que... C'est ici, dans le verset 3 et 4, où il dit à Timothée de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Alors, ceux qui prêchent la guérison, ceux qui prêchent le parler en langue, ceux qui prêchent même l'esprit. Vous savez que l'accent est sur l'esprit de Dieu. Mais Christ a dit lui-même dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 15 et 16, que lorsque l'esprit viendra dans le monde, il ne parlera pas de lui-même. Mais Christ a dit, il prendra ce qui me concerne et il vous l'enseignera. L'accent d'un homme qui n'est pas sur Christ seul, quel que soit le son que la doctrine donne, si ce n'est pas axé sur Christ seul, ce n'est pas l'évangile. Et Christ est sa mort. Et ce que vous venez de décrire, Paul l'a déjà décrit. C'est ce que je trouve bien en étudiant la Bible, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Aujourd'hui, on peut parler de notre génération, mais déjà à l'époque, vous savez, il y avait un égarement de l'évangile. Même à l'époque de Paul, il n'était même pas encore mort que des gens venaient derrière lui pour prêcher un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, il n'y a qu'un seul, mais les hommes déviés, et c'est ce qu'il appelle ici dans le verset 4, de ne pas s'attacher à, noter, des fables, des mythes. Chaque culture a ses fables, ses mythes. Et il y a des fables et des mythes par rapport à la Bible. On l'entend toujours. Ils citent des pasteurs, ils font des citations et ils pensent qu'ils sont bibliques, mais ce n'est pas de la Bible. Ce sont des fables, des mythes. Et surtout des généalogies sans fin. Chacun est en train de vouloir tracer son passé jusqu'à Jean-Baptiste, jusqu'à Christ, pour pouvoir dire nous sommes la véritable ligne de Christ. Vous savez, ici, autour de moi, il y a un groupe cette assemblée, je ne dirais pas église, parce qu'il n'y a qu'une seule église, c'est l'église de Christ, mais c'est une organisation. Si tu n'as pas été baptisé dans l'eau par quelqu'un qui a été baptisé, par quelqu'un qui a été baptisé par Jean-Baptiste, donc tu n'es pas dans la ligne de Christ. C'est comme ça qu'ils considèrent. Alors, ils font des lignes de généalogie pour essayer de prouver que vraiment, ce sont ceux-là qui sont la véritable Église. C'est des généalogies, mais toujours des mythes. Mais en ce qui concerne même la guérison, parce que il y a des choses qui se passent. Le frère Koulibaly, tu as vu ça avec tes yeux. Je sais que Amédée, enfin, Aurélien, nous tous, nous avons vu des cas où des gens ont dit « Oui, mais j'étais malade et j'étais guéri, donc je sais que c'est vrai. » Dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, Paul parle ici des temps difficiles et il parle à la fin des temps, mais en fait, la fin des temps a débuté avec la venue du Christ la première fois. Quand il est venu la première fois, nous sommes au dernier temps. Et il avertit chacun de ce qui doit se passer. Tu sais que le verset 3, par exemple, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. C'est ça, c'est une séduction. Ça paraît être de Dieu, et c'est ça la séduction. Le vrai mensonge est une séduction. Mais il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Auparavant quoi? La venue de Christ. La deuxième fois, quand il viendra encore. Beaucoup imaginent qu'il y aura une grande évangélisation du monde avant la venue de Christ, et voilà, Christ reviendra maintenant pour prendre le trône. Non, ici, tout ce que la Bible dit, c'est qu'il faut l'apostasie Ça, c'est un renoncement de la doctrine, du véritable évangile, qui soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître. Voici ce qui trompe beaucoup. L'homme du péché, le fils de la perdition. Il y a beaucoup dans la religion aujourd'hui qui cherchent un certain homme. Quelqu'un, il vise l'horizon pour voir qui est celui-là, comme si c'était un homme. Mais je vous dis que ce n'est pas un homme en tant que tel, parce que verset 7 parle du mystère de l'iniquité qui agit déjà. C'est un esprit d'iniquité qui prévaut dans les religions, même le christianisme, ce qu'on appelle christianisme. Ça, cet esprit est déjà évident. Mais ce n'est pas l'esprit du Christ, parce que la manière que c'est décrit ici, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Quel est le temple de Dieu aujourd'hui? C'est dans la véritable Église. Tu sais, partout où Dieu a réuni son peuple pour l'adoration, il y aura toujours parmi ce peuple ceux qui sont antichrist, qui ne sont pas de Christ, mais ils se rassemblent avec le véritable peuple de Dieu. Et je crois que c'est ça Paul est en train d'avertir aux Thessaloniciens, que cet adversaire, c'est vraiment des opposants. Je ne cesse d'être, je dirais étonné, mais depuis un certain temps, je ne suis plus étonné pour voir combien de temps on peut rester et prêcher l'évangile dans un lieu croyant que tous ceux qui viennent écouter sont vraiment attachés à cet évangile, mais avec le temps, on voit ceci ou cela partir. Et ils deviennent vos plus grands ennemis. Pourtant, ils se sont levés parmi vous. J'ai ici à Shreveport depuis 20 ans. Je dirais une dizaine d'hommes que je croyais être attaché à Christ, à cet évangile, que j'ai même laissé prêcher ici dans ce lieu de culte, mais avec le temps, se sont opposés à cet évangile de Christ, la doctrine de Christ, et ils sont partis. C'est parmi nous, c'est au milieu de nous, et c'est de ça que Paul écrit ici, cet adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Parce que dans la doctrine de Christ, toute la gloire revient à Dieu seul et à son Fils. Mais jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, cela veut dire au milieu de ceux que Christ a rachetés, se proclamant lui-même Dieu. Combien de fois des pasteurs ont dit, mais c'est Dieu qui m'a placé ici, donc je parle de la part de Dieu. Et Paul averti, il dit, verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous, et maintenant, ouais, nous sommes toujours au premier siècle, maintenant, vous savez ce qu'il retient. Il est en train de parler de la main souveraine de Dieu, cet esprit est déjà là, mais ce qu'il retient, c'est Dieu, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Veut dire que Dieu lui-même met sa main, garde sa main sur son Église, mais il y a des moments et des saisons où Dieu pourra laisser faire. Et c'est ça que nous voyons dans le verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Cela veut dire que Dieu laisse faire. Et alors, paraîtra l'impie. Alors ça, c'est ce que les hommes appellent la sanctification ou être droit avec Dieu. Ici, verset 8, Paul l'appelle l'impie. Tout ce qui n'est pas de la justice de Dieu en Jésus-Christ, est une iniquité et que le Seigneur Jésus détruira par la souffle, le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement lorsqu'il viendra. Cela me dit simplement que jusqu'au retour de Christ, on peut anticiper cet esprit de contradiction au milieu de nous. C'est ça le point que je voudrais qu'on voit. Ce n'est pas seulement dans le monde, mais au milieu de l'assemblée de Dieu, là où Dieu a réuni son véritable peuple. Cela veut dire où il y a le blé, il y aura l'ivraie. Où il y a des brebis, on peut anticiper des boucs qui seront là. Et puis, c'est écrit, verset 9, l'apparition de cet impie, cet esprit, ce mystère d'iniquité, se fera, notez bien, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, et de signes et de prodiges, mais quoi? Mensongers. Pourquoi mensonger? Parce que c'est une séduction. Si quelqu'un veut bien te mentir, il va pas dire, il va essayer de dire assez de vérité pour te tromper, afin de te séduire et avoir tes biens. C'est ça, Satan lui-même, il se transforme en ange de lumière. Il peut même parler à travers d'un prédicateur qui utilise certains termes que lorsque des hommes les entendent, ils disent « Oui, mais il parle de Christ, il parle de sa mort, il glorifie Dieu. » Oui, mais de quelle manière? Ouais. Et notez, et avec toutes les séductions, combien de fois ce mot est utilisé ici par l'apôtre? De l'iniquité pour ceux qui périssent. Alors, si le frère Koulibaly, maintenant, a des yeux ouverts, si Amédée, si Ken, si Aurélien, ou qui que ce soit, a maintenant des yeux ouverts, ça, c'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup qui continuent encore dans cette séduction, puisqu'ils périssent. Et voilà le pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé. L'amour de la vérité, c'est la révélation de Christ. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés d'abord. Aussi, verset 11, regardez, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Peut-être que nous pouvons nous demander, mais pourquoi, si c'est si évident dans la Bible que les gens continuent à suivre ces choses? Bien sûr, le frère Koulibaly parle de musulmans convertis, mais convertis à quoi? À un mensonge. Tu vois, quand Amédée, tu parlais après mon départ de la Côte d'Ivoire, que beaucoup se sont en allés, ils peuvent être des convertis à Ken, mais ce ne sont pas des convertis de Christ. Ce sont des convertis à Ken, pas des convertis à Christ. Tu vois? Et c'est ça la différence. Je ne cherche pas de disciples à moi-même. Je veux être comme je veux être comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau. Et quand les pharisiens ont essayé de susciter un peu de division entre lui et Christ, ils sont venus dire à Jean-Baptiste, hey, tu sais qu'il y a beaucoup plus qui suivent Christ que toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, il faut que Christ soit élevé et moi diminué. Tu vois? Alors, mais notez bien, qui envoie cette puissance d'égarement? C'est écrit Dieu. Bien sûr, c'est Satan, verset 9, par la puissance de Satan, des miracles et des signes et des prodiges mensongers, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et notez bien la conclusion dans le verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité. Ça, c'est simple maintenant. Ceux qui suivent ces choses n'ont pas cru à la vérité. Il ne faut pas les appeler des croyants. Et là, si tu veux voir des hommes se fâcher, il faut leur dire ça. Vous êtes des croyants, mais non pas des croyants en Christ. Ça, ce n'est pas la manière que l'Esprit de Dieu dirige des hommes qui sont sauvés par sa grâce. Il ne suit pas des miracles, des signes, des prodiges mensongers. C'est écrit, mais qui ont pris plaisir à noter l'injustice. Tu sais, la justice de Dieu, il n'y a qu'une seule justice que Dieu approuve. Ça, c'est la justice que Christ lui-même est venu accomplir à l'égard de son peuple. Et tout le reste est appelé ici l'injustice. Et pourquoi? Pour qu'il soit condamné. Dieu est un Dieu de salut, mais aussi de condamnation. Il sauve qui il veut et il condamne qui il veut. Et je dois dire que cet esprit de condamnation aujourd'hui règne dans des milieux soi-disant christianisme. C'est un aveuglement aussi pire que qu'on trouve même dans des religions païennes. Tu vois? Aucune différence, à part la révélation de Christ. Alors, c'est ça que je voudrais mentionner en rapport avec le texte que nous sommes en train d'étudier ici dans 1 Timothée 1, 3 et 4. Je ne sais pas si c'est clair.
Allô?
Allô?
Ouais? Ouais? Là?
Voilà. Je vous dis réellement que. Voilà. Je disais que si nous parlons des réalités du terrain, c'est pour pouvoir mieux comprendre et mieux nous défendre. Parce que des fois, celui qui réfléchit sur les choses, il trouve des fois vraiment la réponse à ses problèmes. Voilà pourquoi le terrain est tellement miné que nous en disons cela, c'est pas que nous croyons, mais nous en disons cela pour pouvoir avoir vraiment une défense. Vous saviez que si je vois par exemple le cas de Madame Amédée, elle était dans une église et moi j'ai fréquenté, je connais le pasteur Thomas Kouassi, c'est la deuxième personnalité après Yahvé. Je l'ai connu en 1989, quand je venais du Libéria, quand on a saisi mes barrages. J'ai su que à Mans, l'église faisait tellement de choses et que c'était l'église, au vu des gens, c'était l'église la mieux organisée. Alors, vous saviez que il y a même un frère que j'encadrais ici, qui est en France là-bas, il s'appelle Joachim. Il s'est marié en France là-bas, il est de l'église Baptiste Œuvre et Mission. C'est un jeune de Sénéfaux d'ici. Il boite un peu du pied, il est là-bas et j'ai partagé beaucoup de choses avec lui. Mais il a finalement compris que c'est la grâce réellement qui sauve. Mais quand il est allé aux États, en France là-bas, il s'est marié. Alors c'est pour dire que si nous parlons de ces choses-là sur le terrain, nous sommes sur le terrain. Et des fois nous rencontrons réellement beaucoup de choses. Alors si on n'est pas, on ne s'instruit pas, si on ne reçoit pas d'enseignement solide, on risque de tomber dans le précipice. En réalité, voilà pourquoi nous disons ces choses. Ce terrain, moi, quand j'ai été réellement au Mali, je vous dis que j'étais surpassé. Les musulmans qui s'approchaient des chrétiens à cause des miracles, la pluie qui doit venir, beaucoup d'autres choses, et qui séduisaient beaucoup de gens. Alors, il faut vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Si nous parlons vraiment de ces choses-là, c'est pour nous aider dans la lutte, parce que la lutte n'est pas vraiment facile, surtout avec les musulmans. Quand on prêche, moi j'ai reçu trois musulmans ici dans ma maison, malgré mes maigres moyens, quand ils acceptent le Christ, on les chasse. Bon, vous saviez que moi je suis sorti de la religion musulmane, croire à la prédestination, croire à la providence, mais ne croit pas, qui oublie l'essentiel. Sinon, il croit à la providence, à la prédestination et à l'unicité de Dieu, mais il ne connaît rien de Jésus-Christ. Voilà.
Oui, Mbaye.
C'est ce que j'ai dit. Oui. Je vous écoute.
Je ne sais pas si. Bon, je ne sais pas si vous avez passé avec elle, mais tu as ajouté quelque chose.
Non, continuez, parce que c'est ce que je veux. Je veux que. On s'encourage les uns les autres, alors vas-y.
Voilà, je vais ajouter quelque chose encore. Quand le frère, comment dirais-je, Koulibaly, quand, au fur et à mesure qu'il explique,
il y a des choses qui me ressortent, tout ça pour expliquer. Alors, donc, Nouvelle, toujours, faisons attention aussi maintenant, comme on le dit, notre évangile qu'on croit n'est pas résumé à la prédestination, à la justification. Non, il faut voir Jésus-Christ dans un premier temps, comme on est en train de voir, que l'évangile est centré déjà en Jésus-Christ. Donc, c'est les éléments de l'évangile qu'on développe, prédestination, autre chose, justification et autres. Mais quand tu es au Mali, ou bien quand tu es à faire caisse, il ne faut pas dire aux gens que oui, à mon sens, il ne faut pas leur dire que, bon, qu'ils ne croient pas à la prédestination. Non, il ne faut pas centrer ça sur prédestination. Centre ça sur l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, que Dieu sauve qu'en Jésus-Christ seul. Donc, au fur et à mesure que tu expliques, tu vas aborder tous ces sujets-là. Ah, deuxième chose que je voulais souligner, comme tu le dis, il faut maintenant avoir l'habitude de dire aux gens les lieux de culte. Parce que la vraie Église, comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est centré sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul, qui est vraiment fondamentalement la véritable Église. Troisième chose que tu as souligné, même si il y a pas, même si Aurélien n'est pas auprès de moi, même si Koulibaly n'est pas auprès de moi, même si Ken n'est pas là, il est au loin, il ne faut pas penser, c'est pour ça qu'elle dit que c'est pas un évangile de Ken. Ou moi j'entends souvent les gens dire ici dans mon entourage en France que c'est l'évangile des blancs. Moi je suis pas d'accord. Donc faudrait pas dire que nous qui avons reçu la foi en Jésus-Christ, qui nous croyons et qui nous considérons comme les enfants de Dieu, nous devons considérer que nous sommes une Église qui est dans le monde. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, au jour de jeu, que je compris l'évangile réellement, que ce n'est pas parce que je ne vois pas un pasteur à côté de moi. Il y a Jean-Claude Soulot qui est à Chalon-sur-Saône, qui est très loin, et il y a maintenant le frère, Éric Afonitode, qui vient d'arriver à Paris, Aurélien, lui, il est loin, il est au Bénin, alors, Ken aux États-Unis. Il ne faudrait pas que nous considérions que, comme nous ne voyons pas notre frère, que nous pouvons vivre dans le péché, faire ce que nous voulons. Et là, à l'époque, moi, c'était comme ça que je voyais la chose. Ah, mais le pasteur qui n'est pas à côté de moi. Ah, je ne vois pas, donc on peut faire ce qu'on veut, là. Donc, il faut qu'on fasse attention. Ce n'est pas que nous, quand nous sommes dans un mur, un quatre murs, qu'on croit que l'évangile est prêché là-bas, et que quand on sort de ce mur, de quatre murs-là, alors, comme on ne voit pas les autres frères en Christ, en fait, c'est caché pour faire autre chose. Tu vois? Donc, si nous avons réellement compris l'évangile, c'est que dans le monde aujourd'hui où nous sommes, moi, je suis à Paris, ici en France, en province, ce n'est pas parce que je ne vois pas mes frères et soeurs en Christ que je dois vivre dans le péché. Non. Ça, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être stricts là-dessus. Parce que on est libre, c'est vrai qu'on est libre, mais on n'est pas libre des péchés. Et d'ailleurs, l'enfant de Dieu n'abuse pas de sa liberté chrétienne. Nous ne pouvons pas abuser de notre vie. Donc aujourd'hui, quand nous comprenons l'évangile, il y a certains mots qu'il faut placé dans son contexte. On ne peut pas dire aujourd'hui l'Église. Non, l'Église, c'est nous-mêmes qui sommes l'Église. Et moi, quand on me dit, je t'invite à manger, non, il y a un lieu de culte, il y a un lieu de culte à côté de chez moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne peux pas y aller parce que je ne connais pas. Alors, donc, moi, quand je suis arrivé en France, il y a Jean-Claude Soulot qui m'a dit que dans toute la France, et là, Koulibaly, je te dis, dans toute la France, il y en a 5 prédicateurs qui prêchent fidèlement la grâce. Non, ce qu'il m'a dit. Et qui sont dans le sud de la France. Donc, c'est pour dire que si nous sommes enfants de Dieu, moi je te dis, c'est dans ces illustrations pour comprendre que même si on ne voit pas les frères et sœurs en Christ à côté de nous, nous devons nous comporter comme une église qui vit dans le monde et qui insiste. Il ne doit plus vivre dans le péché. Si le Seigneur nous a fait grâce, on ne fait pas erreur. Les erreurs, on ne fait pas deux fois, trois fois. Mais il faut qu'on sache qu'on doit abandonner la religion. Hein? On doit abandonner les désirs de bonne aventure. Et dans la religion, comme tu l'as dit, Koulibaly, le diable est très malin, c'est vrai. Il vient avec des ruses, il dit qu'il a des pouvoirs pour délivrer, pour guérir, tout ça. Tout ça, c'est du fétichisme. Ça, c'est faux. Pas l'évangile. Alors, restons dans le contexte de l'évangile et employons les mots comme le Seigneur l'a dit. Et faisons une véritable distinction. Pas une distinction intellectuelle seulement, pas une distinction pour se distinguer seulement des autres, mais c'est parce que le Seigneur nous a mis à part en Christ. Il nous a véritablement mis à part. Donc, je sais qu'il y a des frères et sœurs en Christ qui sont là, donc le frère Duvalier est là, il y a Aurélien, il est au Bénin, qui est aux États-Unis, et Jean-Claude Sulaisien, ils disent, tous, on a des frères comme ça en Christ, mais nous savons que nous, la foi commune que nous avons, le salut commun que nous avons ensemble, c'est ça qui nous lie, et que c'est en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas la prédestination, on n'est pas lié par la prédestination. Non, donc c'est pour ça que je voulais expliquer, partager un peu ça, quoi, avec vous.
Amen. Voilà. Ça, c'est merci. Bien.
Excusez un instant.
Oui, Aurélien, vas-y. Oui, alors Aurélien, on t'attend.
Je voudrais souligner deux choses là. La première, c'est que lorsque l'évangile est prêché de manière à adresser l'intelligence de l'homme là, il est tout à fait normal que l'homme commence par développer des choses selon son intelligence et ne pas s'accrocher à Christ. Vous voyez, l'apôtre Paul dit par exemple aux Philippiens que ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Mais avant, au verset 7 de Philippiens, quand il avait dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, il y a des termes, et c'est là la seconde chose qui nous trompe souvent. Il y a des mots et des termes qui n'ont pas leur fondement du tout dans les Écritures, mais qui ne sont que des doctrines variées que l'on impose à l'Évangile. Par exemple, prédestination, élection. Ce sont des mots qui ne sont jamais isolés. On est prédestiné en Christ.
Amen.
Et à Christ.
Yeah.
À être premier-né, c'est-à-dire à être frère de Christ pour que Christ soit premier-né de beaucoup de frères. Il n'y a pas prédestination en l'air, élection en l'air. Il y a élection en Christ, prédestination en Christ et la paix de Dieu qui est la paix que Dieu donne, qui n'est pas la paix du monde, qui est Dieu lui-même, ce qui remplit Dieu. Et quand on prêche l'évangile, on n'adresse pas une croyance du péché. Il y a le péché. Et le péché n'est pas à confondre avec les mauvaises choses ou les bonnes choses que nous pensons bien faire et qui sont parfois mauvaises. Le péché même, c'est l'homme lui-même qui s'oppose à Dieu et qui se regarde comme but à l'opposé de Dieu qui est le but de tout en Jésus-Christ. Et vivre le péché, c'est en réalité se voir en l'homme sans Christ et se prévaloir dans ses biens et ses mal comme étant une valeur. Mais c'est différent du fait qu'on parle de vivre dans le péché et je ne comprends pas de quoi on parle d'ailleurs. Si quelqu'un commet l'adultère et vit dans ses plaisirs sensuels, il n'est certainement pas en train de se voir comme un seul corps et un seul esprit en Jésus-Christ. Mais il est en train de faire de mauvaises choses. Mais si quelqu'un, même s'il ne fait pas de mauvaises choses, ne se voit pas comme un seul corps et un seul corps en Christ et se glorifie dans ses bonnes œuvres, il vit toujours dans le péché. Parce que Dieu ne connaît pas l'homme en dehors de Jésus-Christ. Et si l'homme se voit dans ses idées, dans ses doctrines, bonnes ou mauvaises, et ne se voit pas par rapport à Christ, dans la doctrine de Christ, dans la prédestination à être semblable à l'image de Christ, à être frère de Christ, dans l'élection en Christ, dans la justification en Christ, en toutes choses, il y a Christ qui est l'élément central auquel nous nous identifions. Et si nous prêchons l'évangile pour intéresser l'homme, et que les hommes disent, ah, quel grand prédicateur, au lieu de dire, quel Christ, il est tout à fait normal que lorsque le prédicateur disparaît, l'homme s'attache à ses idées négatives ou positives, mal ou bien, en dehors de Christ, et finissent par chercher ailleurs, comme quand l'a dit, ça m'a fait sourire. Parce qu'en réalité, les gens sont convertis à une idée, à une religion, à une doctrine préférée, et ne sont pas convertis à Jésus-Christ.
C'est ça.
Et souvent, c'est notre faute, nous, prédicateurs, qui adressent l'intelligence, au lieu de prêcher dans la simplicité de Christ, pour que le Saint-Esprit révèle les profondeurs de Christ au cœur, pour que la gloire de Christ soit manifestée dans le cœur. On intéresse les hommes avec de belles doctrines. On parle de l'élection, de prédestination, dépravation, dépravation, tout ça, et on laisse le sujet principal, la corruption totale de l'homme et la justification parfaite en Jésus-Christ, l'élection éternelle en Jésus-Christ, la prédestination à être semblable à Christ tel que l'Écriture dit. On ne doit pas prendre des mots et en faire une doctrine. Et lorsqu'on s'y adhère, on se dit qu'on est prédicateur de la grâce ou de quoi. Il faut prêcher Christ. Et quand on parle de l'élection, c'est l'élection en Christ. C'est justification en Christ. De la grâce, c'est de la grâce en Christ.
Amen.
Et Dieu nous appelle par la grâce de Christ et non pas des idées concernant Christ.
Voilà.
Et c'est très important pour nous de le savoir et d'insister là-dessus parce que c'est nous qui égarons les autres. Quand ils commencent par oublier notre intelligence parfaite pour s'accrocher à leur intelligence qu'ils ont colporté d'autres personnes qui se disent missionnaires ou pasteurs qui connaissent mieux que celui qui avait prêché. Si quelqu'un prêche Christ, soi-disant, et n'est pas le Christ que j'ai prêché, que lui, il est venu prêcher une idée, peut-être pensant par faire les danses contre le péché ou bien engagé pour Christ, ils seront en train de s'attacher à leur personne. Et non jamais à la foi qui est transmise au sein une fois pour toutes.
Amen.
Donc il ne s'agit pas pour nous de sombrer dans des idées bonnes ou mauvaises et de l'appliquer à des hommes, mais de prêcher réellement Christ, qui est la grâce de Dieu, qui est l'évangile, qui est la gloire de Dieu, qui est l'objet de toute la passion de Dieu et que Dieu a partagé avec nous pour nous réconcilier avec lui-même.
Amen.
Dieu n'est pas en train de se réconcilier avec nous, mais il nous a réconciliés avec lui-même.
Voilà.
Donc nous devons nous voir entièrement avec Dieu et nous séparer de Dieu pour pouvoir être ensemble avec Dieu.
Amen.
Tout à fait.
Vous voyez, toute ma joie maintenant, c'est de pouvoir m'asseoir et écouter comment vous êtes en train de commenter ces versets et même la manière que Dieu s'est révélé en vous, parce que c'est ça l'Esprit de Dieu qui donne toute la gloire à Christ. Et je suis entièrement d'accord avec cette bonne explication que Christ est tout pour Dieu. C'est lui, deux fois la voix du Père. Il a fait entendre du ciel quand Christ était encore sur la terre que ceci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et on peut avoir toutes ces doctrines de point de vue de pouvoir définir à la lettre la doctrine, mais si ce n'est pas Christ qui est prêché, c'est une fausse doctrine. Et malheureusement, des hommes... c'est logique. Quand on écoute ce qu'on appelle les doctrines de la grâce, enfin, quel Dieu qui n'est pas souverain, même les philosophes peuvent pouvoir définir ça et dire, oui, si il est Dieu, il est souverain. Il peut comprendre logiquement ces soi-disant doctrines de la grâce, mais vide de Christ. C'est la révélation de Christ à travers cette doctrine qui sauve l'âme. Et c'est pour ça que je ne m'identifie pas avec des hommes simplement parce qu'ils prêchent les doctrines. Non? Comme on a vu ici, c'est la doctrine contre, dans le verset 3, d'autres doctrines. Là, c'est au pluriel. Mais dans la foi, verset 4, ça c'est la doctrine de Christ. Et même... l'apôtre Jean, dans la troisième épître de Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Mais il le dit dans le verset 10. C'est la deuxième épître de Jean. Deuxième épître de Jean. Il dit dans le verset 7, car plusieurs, voici le mot encore, séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Cela veut dire que la raison pour laquelle Christ est venu en chair, c'était nécessaire qu'il vienne en chair afin de pouvoir se sacrifier pour satisfaire à la justice de son Père à l'égard de son peuple. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. On peut prêcher beaucoup de vérité sans prêcher la vérité. Et ceux qui ne prêchent pas la vérité, comme le frère Aurélien vient de décrire et Amédée aussi, c'est un séducteur et l'antéchrist. Ce sont des termes très définis. Mais regardez verset 8. Prenez garde à vous-même. Telle est la séduction que même les élus pourraient être séduits si ce n'était pas l'esprit de la grâce qui leur donne cette connaissance de Christ. Prenez garde à vous-même. Il s'adresse là à des véritables enfants de Dieu. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Ça ne parle pas de récompense au ciel, mais la pleine récompense, c'est de voir des véritables convertis. C'est ce que je cherche. Peu importe les convertis à Ken, moi, je préfère qu'ils s'en aillent. Mais la vraie récompense, c'est ce que Christ lui-même a racheté et son esprit attire. Et notez, verset 9, quiconque va plus loin, il suffit simplement d'ajouter une petite doctrine ou bien de dire oui mais à la grâce de Dieu et ne demeure pas dans, notez bien, singulier, la doctrine de Christ. Ouais. Non, c'est écrit, et ce n'était pas écrit qu'il s'est éloigné de Dieu. Non, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Fils et le Père, le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas, notez, cette doctrine. Je me méfie même de ceux qui me disent, bon, je crois aux doctrines de la grâce, comme si c'est au pluriel. Parce que ce n'est pas ce que dit la Bible. L'Esprit de Christ à un homme dira, non, il n'y a qu'une seule doctrine, celle de Christ. C'est ce qui est écrit ici. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, c'est en train de parler de prédicateur. Tu sais, je n'invite, ça fait longtemps que je n'ai pas eu quelqu'un venir prêcher pour moi ici, dans notre assemblée. Parce que je me méfie de ceux qui ne viennent pas prêcher cette doctrine. C'est écrit, ne le recevez pas dans votre maison. Tu sais, les assemblées à l'époque se réunissaient dans les maisons. Alors, ça parle du lieu de culte. Et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Tu vois, au pluriel. Il vient au nom des doctrines quelconques, mais ce sont des mauvaises œuvres. Quoique, juste beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite. Alors, c'est le discernement qu'il nous faut vraiment à notre époque. Bon, j'ai une rencontre dans 20 minutes avec les frères qui sont au Malawi. Donc, je dois devoir arrêter pour aujourd'hui. Merci bien pour les commentaires. Merci bien pour la participation. C'est de cette manière que je prie que le Seigneur nous guide chaque fois. Et comme je disais, il y a beaucoup d'autres qui sont en train d'écouter en direct, qui ne sont pas sur Skype. Le lien est sur notre site à l'église. Alors, ils peuvent, le site pour l'église sur l'Internet, ils peuvent cliquer là-dessus et puis sont en train de suivre avec nous, même si on ne les entend pas. Je voudrais aussi dire que nous sommes en train d'enregistrer ces séances. Alors, si vous avez des contacts qui ont manqué jusque-là, ce que nous avons étudié, ils peuvent aller aussi sur notre site pour l'Église. Il y a une page là uniquement pour les francophones. Et nous sommes en train de développer ça, mais ils peuvent télécharger les messages et écouter sur leur appareil à n'importe quel moment. Alors, ne soyez pas étonnés si vous entendez vos voix, parce que tout est enregistré, et les commentaires, et comme je disais, c'est pour la gloire de Christ. réellement que nous voulons continuer. Mais la semaine prochaine, nous allons reprendre à partir du verset 5 jusqu'au verset 16. Et le sujet, ça, c'est intéressant, c'est la loi et la grâce. Ça aussi, c'est un sujet qui est beaucoup discuté aujourd'hui. Mais déjà, il n'y a rien de nouveau. L'erreur au sujet de la loi était à l'époque de l'apôtre Paul au premier siècle. Alors, nous avons déjà des réponses dans la parole de Dieu pour nous aider de nos jours aussi. Alors, je vous remercie et restons en contact. Et Dieu voulant, on va se rassembler encore la semaine prochaine. Je vais prier pour terminer et demander la bénédiction du Seigneur sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Seigneur, nous te remercions pour cette occasion. Je te remercie pour ces frères qui ont pu suivre cette étude ensemble. Et nous te remercions de ce moyen que tu nous donnes de pouvoir nous encourager les uns et les autres, isolés, bien vrai, séparés dans le monde, mais unis autour du trône de ta grâce. Je te prie, Seigneur, par ton esprit, de bénir ces séances chaque semaine, de les utiliser pour l'encouragement de tes serviteurs, partout où ils se trouvent dans le monde, tes enfants. Et notre seul désir, c'est la gloire de ton Fils, le Saint Jésus-Christ. Alors, nous te remercions pour l'éclaircissement. Nous te remercions pour cette parole écrite, mais vivante, que nous tenons dans nos mains. Et Seigneur, continue par ta grâce à nous conduire et nous édifier, nous enseigner dans la doctrine de Christ. Et c'est à sa seule gloire que nous te prions. Amen.